France Culture.
Talmudique. Dans De l'autre côté du miroir, Alice, dans un célèbre dialogue avec Humpty Dumpty, découvre l'existence des non-anniversaires, les anniversaires que l'on fête quand ce n'est pas notre anniversaire, ce qui fait 364 jours par an, une aubaine pour les bons vœux et les cadeaux. Mais Alice dit qu'elle préfère les vrais anniversaires, une fois par an, parce que c'est plus intense, plus rare et plus précieux. Et c'est sans doute ce que pensent aussi Patricia Farazi et Michel Valency, qui fêtent cette année les 40 ans de la maison d'édition de l'Éclat qu'ils ont créée en 1985. 567 acteurs du monde des livres, 505 titres auxquels rendent hommage 20 préfaces écrites par Patricia Farazi et Michel Valency au cours de ces 40 ans et réunies sous le titre sobre de 20 préfaces en forme de livre, petit catalogue emblématique de ce projet intellectuel, spirituel, esthétique, éthique et tout simplement humain, projet de vie fait de rencontres et d'amitié et d'enthousiasme. Patricia Farazi et Michel Valency, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Patricia Farazi, Michel Valency, c'est un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et la semaine prochaine pour deux émissions. La première consacrée à la maison d'édition, son histoire, sa naissance, son projet et son futur, et son très beau et riche catalogue. La seconde émission sera consacrée plus particulièrement à l'œuvre romanesque de Patricia Farazi, à son dernier roman, L'étoile et le flot, et à son précédent roman qui vient de ressortir en édition de poche, intitulé L'archipel vertical. Tout d'abord, pourquoi avoir voulu devenir éditeur ? Michel Valency, vous ne venez pas du monde de l'édition. J'ai lu qu'à la fin des années 70, vous étiez violoncelliste et chanteur au sein du groupe LO. Comment passe-t-on de la musique au livre, Michel Valency ?
Disons que le passage s'est fait assez simplement, finalement. Il est possible que je n'étais peut-être pas assez musicien quand je faisais de la musique, parce que j'avais une conception de la musique que je pensais comme une sorte d'accompagnement sonore d'un texte. C'est pour ça que j'ai travaillé pour le théâtre. Et ce passage de la mise en musique d'un texte, finalement, j'en suis arrivé à non plus mettre en son, mais à mettre en forme, mettre en page. Et c'est comme ça que l'idée d'édition est venue. C'est vrai que le texte était central. D'ailleurs, après le spectacle, les musiques du spectacle de Michel Boujna, on avait monté un spectacle avec Patricia Farazi qui était une sorte de dialogue parallèle entre un texte, Stella Memoria, qui était écrit par Patricia, qui a été d'ailleurs publié par la suite aux éditions Pierre Bordas et fils en 85. Pierre Bordas qui a été l'éditeur en 1947 du premier livre de Samuel Beckett, Murphy. Et donc, ce glissement s'est fait vers le livre, qui était une autre manière finalement de donner un rythme au texte, mais avec, en lui accordant une respiration par les marges, trouver un caractère, trouver un papier, trouver un format. Le premier format des éditions de l'Éclat était le format 12,5 cm sur 19 cm. Je l'avais repris d'un livre que je lisais à l'époque qui s'appelait « La flamme d'une chandelle » de Gaston Bachelard. Et finalement, c'est en suivant la lumière de la flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard qu'on en est arrivé à l'éclat.
Alors c'est très beau cette flamme, cela a un lien avec le nom de l'éclat, mais j'aimerais comprendre encore un peu plus précisément pourquoi ce nom, Patricia Farazi.
Quand nous avons cherché un nom pour la maison d'édition, qui était à ce moment, comme Michel vient de le préciser, son projet, vraiment le projet de Michel Valency, je me souviens que je jouais avec lui à trouver un nom, j'étais encore dans l'ombre, et j'écrivais, je ne voulais pas faire d'édition. C'était plutôt ludique, on s'amusait comme ça à trouver. Et puis, à ce moment-là, Michel lisait beaucoup Saint John Perse, dont il avait mis un poème en musique pour un spectacle, 1492, avec un autre Wakenin, Serge Wakenin. Lui, il se souvient que ce nom de l'éclat viendrait de cet extrait de poème de Saint John Perse, amer. Ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat. Moi, je me souviens plutôt que nous voulions l'appeler les éditions de la diaspora, ce qui était quand même un peu lourd à porter, et que éclat a surgi comme ça, d'un coup, parce que c'était à la fois l'évocation de la diaspora, mais aussi les fragments, la lumière, des morceaux qui se réunissent. Et on peut imaginer les éclats d'une sculpture que le burin fait tomber. Il y a le bloc et puis il y a les éclats de pierre. Et à l'éclat, eh ben, nous ne saurons jamais ce bloc.
Michel Valency, dans la préface aux préfaces de ce joli petit livre que j'ai évoqué, que vous publiez et offrez à l'occasion des 40 ans de la maison d'édition de l'Éclat, vous écrivez « Voici 20 préfaces d'une écrivaine et d'un éditeur qui, en 1985, ont fait le pari d'une maison d'édition marquée par une préférence pour les marges où s'écrivent une littérature de l'imaginaire et une philosophie des sentiers qui bifurquent. Qu'entendiez-vous alors, et encore aujourd'hui, par littérature de l'imaginaire et philosophie des sentiers qui bifurquent ? Petit clin d'œil, bien sûr, à une expression de Borges, cet écrivain philosophe qui voulait être bibliothécaire et auquel est d'ailleurs consacrée une biographie par Jean-Clé Martin aux éditions de l'Éclat. Patricia Farazzi.
Je ne sais pas si c'est une littérature de l'imaginaire. Je pense qu'il s'agit d'une littérature tout court. Je ne peux pas imaginer une littérature qui ne soit pas de l'imaginaire. Ursula Le Guin, ce livre que nous avons publié, le deuxième livre d'Ursula que nous avons publié, Imaginer, lire, écrire. Et elle dit dans une de ses conférences, la fiction, c'est l'imagination travaillant sur l'expérience. L'imagination peut transfigurer la matière sombre de l'existence. Et elle dit aussi, je veux reconnaître ce que je n'avais jamais vu avant dans ce que je lis, c'est ce qu'elle dit. Et c'est à mon sens la moindre des choses qu'un livre peut offrir, le feu de l'imagination transfigurante. Je pense qu'on retrouve ça dans le titre de la collection de littérature à l'Éclat, Parabole, avec cette idée, la parabole, de rapprochement, de rencontre, d'ironie aussi, pas au sens strict, mais une ironie qui laisse toujours une ouverture vers plusieurs interprétations, en se gardant bien du pied de la lettre. Et dans la littérature parabolique, imaginaire, ce n'est pas l'écrivain qui se prend au sérieux. C'est ce qu'il écrit qui est une transfiguration du réel. Et ça, c'est du sérieux. C'est le travail d'écriture. Et c'est aussi une manière, à mon sens, de respecter le lecteur. C'est ce que j'aurais à dire sur la littérature de fiction. Je pense que pour Michel, qui va vous parler de cette philosophie des sentiers qui bifurquent, la philosophie doit aussi offrir cette transfiguration.
Michel Valency.
L'imagination est essentielle, y compris dans le domaine de la pensée et de la philosophie. Cette formule de la philosophie des sentiers qui bifurquent est évidemment un clin d'œil à Borges, comme vous l'avez rappelé, mais c'est aussi le contre-pied, le contrepoint d'une philosophie qui serait un chemin qui ne mène nulle part. Le sentier qui bifurque conduit vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose qui suscite l'étonnement. Et ce qui comptait pour nous, quand on publie des ouvrages de philosophie, c'est cet étonnement qui est le fondement de la philosophie. Et je crois que là aussi, l'imagination est essentielle. L'imagination et l'écriture, enfin, je veux dire, la littérature. On publie des ouvrages de philosophie, ça fait sans aucun doute, mais avec toujours cet attachement à un souci de l'écriture et un souci de l'expression. Et ça, je crois que c'est ce qu'on a essayé à chaque fois de le rendre palpable, vivant, dans les ouvrages qui paraissent, quoi.
Oui, et d'ailleurs, cette question de l'imaginaire, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Bachelard, que vous avez cité au début, pour qui l'imagination philosophique ou la philosophie avec imagination est une philosophie qui ne mène pas nulle part, mais comme vous le dites très bien, qui permet cet étonnement, ce chemin qui bifurque. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que vous nous montrez dans le premier titre publié par les éditions en 1985, qui était intitulé « Comment trouver, comment chercher une première vérité » du philosophe français Jules Lequier. Ce texte inaugural avait été tiré à 3000 exemplaires et je pense que c'était un pari audacieux pour une maison d'édition naissante. Mais un autre livre fut édité en même temps, le petit livre d'Abraham Aboulafia intitulé « L'épître des sept voies » avec une postface de Patricia Farazzi, « La vie imaginaire d'Abraham Aboulafia ». Ce livre, me semble-t-il, a posé les fondations de la maison d'édition. Et j'aimerais vous demander, En quel sens ? C'est aussi l'occasion de nous parler du catalogue dans lequel on a le sentiment que vous avez voulu faire rencontrer, faire cohabiter un certain nombre d'auteurs aux orientations et aux sensibilités intellectuelles très précises. Michel Valency.
Oui, c'est vrai que la publication quasi simultanée de ces deux ouvrages en 85, un philosophe breton du 19e siècle et un kabbaliste juif du 13e siècle espagnol, Abraham Aboulafia, donnait une orientation à ce catalogue qui était d'établir des rencontres. Et c'est vrai que la rencontre, c'est toujours la rencontre d'un autre. Et c'est pour ça que on n'a jamais voulu que les collections correspondent à des univers clos, précis. Il n'y a pas de collection sur le judaïsme, il n'y a pas de collection sur la littérature italienne, il n'y a pas de collection spécifique, mais il y a chaque fois l'idée du contact, l'idée de la rencontre. C'était cette idée de philosophie imaginaire qui, au départ, était un projet dans lequel on voulait intégrer à chaque texte philosophique une vie imaginaire de l'auteur. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu développer par la suite, mais finalement, les préfaces qui accompagnent souvent les ouvrages qu'on publie sont une manière d'aborder par la littérature la problématique philosophique. Et c'est effectivement cette idée de rencontre qui est centrale pour nous depuis le début et qui s'accentue finalement, je crois, avec l'évolution du catalogue.
J'ai évoqué la collection Philosophie imaginaire. C'est la première collection de votre maison d'édition en 1985. Avec une autre collection intitulée Parabole, vous en avez parlé, Patricia Farazzi, mais ce ne sont pas les seules collections de votre maison d'édition, loin de là, car au fil des ans, de nouvelles collections ont vu le jour, et surtout d'autres formats. On a l'impression que vous avez un faible pour le petit format, Michel Valency. Est-ce que c'est aussi un choix philosophique ?
Les formats ont évolué. J'y pensais d'ailleurs récemment, parce que on a commencé donc par ce format de la flamme d'une chandelle, 12-5-19, et puis après, on a eu besoin d'un peu plus d'espace. Alors on est passé à un format plus grand, qui était de 15 cm sur 22 cm, aussi format assez classique. Et puis après, il y a eu des formats un peu plus grands encore, 24-32, si j'ai bon souvenir, qui sont toujours des centimètres. Et petit à petit, enfin, l'idée du petit format a surgi, parce que d'abord, c'est une très vieille idée. Adrienne Monnier avait fait un très joli texte sur l'édition pauvre, où elle valorisait cette idée du petit format. Et il y avait, au début du 19e siècle, une magnifique collection chez Stock qui s'appelait Les Contemporains, qui était des tout petits formats de livres. Et bon, c'est une idée qui était importante à un moment donné, qui a disparu, puis qui a été reprise. Je ne crois pas que les éditions Stock publient encore des petits formats, mais c'est vrai qu'on a eu le souhait d'avoir des ouvrages qui soient à la fois maniables, qui aient une espèce de permanence comme ça. Bon, c'est l'idée du livre de poche, mais on est allé, comment dire, les poches se sont rétrécies, on a donc aussi rétréci les formats, avec la collection des éclats. Et là, l'image que Patricia a évoquée tout à l'heure de ces éclats d'un rocher qui n'est pas le bloc, mais ce qui reste, si vous voulez, du travail du sculpteur, c'est aussi le projet de cette petite collection des éclats, où on trouve à la fois de la littérature, de la philosophie, des textes anciens, la biographie de Jeanne d'Arc par Michelet, enfin, je veux dire, des choses très hétérodoxes, pas pour nous, mais qui peuvent sembler comme ça disparates ou hétérodoxes. Et le petit format, c'est à la fois une rapidité de lecture, une commodité de l'objet, quoi. Et c'est vrai que, bon, est-ce que ça a une dimension philosophique ? Oui, probablement, enfin. De lecture, en tout cas. Ça suscite un certain type de lecture qui correspond peut-être à notre lecture du 21e siècle, de gens pressés, mais qu'on essaye d'arrêter dans l'instant de cette lecture.
Mm-hmm. Nous sommes en train d'entendre un morceau absolument magnifique de John Coltrane intitulé « Seraphic Light », un petit clin d'œil à ce livre intitulé « Je pars d'un point et je vais le plus loin possible ». C'est une phrase de John Coltrane. Ce sont des entretiens avec Michel Delorme parus dans la petite collection « Éclat » dont vous venez de parler, Michel Valency, paru en 2011. Que représente pour vous John Coltrane au point d'avoir édité ses entretiens, Patricia Farazzi?
John Coltrane, c'est une longue histoire. J'ai commencé à écouter du jazz toute petite avec mon père, qui, avec des 78 tours. Mon père qui était un musicien de jazz, amateur bien sûr. Et le jazz m'a toujours accompagné quand j'ai rencontré Michel, qui lui-même faisait du free jazz, jouait du free jazz avec le groupe Lo. On a évidemment écouté beaucoup de jazz ensemble et Coltrane est devenu comme la... avec d'autres musiques, avec des musiques répétitives, mais c'est vraiment devenu la bande-son de l'éclat. Non pas qu'on écoute Coltrane tout le temps en travaillant, mais c'est toujours là. Donc au bout d'un moment, on a eu envie de voir s'il n'y avait pas quelque chose à publier, le faire parler, voir s'il y avait des choses écrites. Ça n'a pas été facile, mais effectivement, on a trouvé, Michel a trouvé ses entretiens avec Michel Delorme, dans lesquels se trouve une lettre et où Coltrane dit des choses très très importantes sur la création, sur l'urgence créatrice, et c'est très beau et ça continue à nous accompagner.
Et il y a l'idée qu'il y a dans cette phrase qui est quand même très importante, partir d'un point et aller le plus loin possible, c'est un petit peu ce que l'on fait quand on fait de la recherche. On ne sait pas où on va,
exactement.
On commence. Et peut-être aussi la maison d'édition, elle est partie d'un point, d'un livre, de deux livres, on en a parlé. Et puis elle va aller le plus loin possible, où on ne sait pas. C'est la surprise que les livres vous réservent à vous et nous réservent à nous lecteurs. Mais je trouve que Seraphic Light, donc le sens même de cette lumière séraphique, renvoie à toutes les recherches spirituelles de Coltrane qui vous tiennent particulièrement à cœur, on l'entend, comme vous tiennent aussi à cœur, dans l'ensemble des ouvrages que vous avez édités, ceux qui ont trait au judaïsme et au monde de la Kabbale. L'épître des sept voies, le livre d'Abraham Aboulafia, dont nous avons parlé, en est un beau témoignage, mais Kabbale, mais pas seulement, car il y a aussi dans votre catalogue la philosophie juive, la littérature et la poésie juive, israélienne et yiddish. Parlez-nous, Michel Valency, de cette partie du catalogue.
C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a jamais imaginé une collection qui serait consacrée au judaïsme et qui enfermerait finalement le judaïsme dans un carcan. Même s'il y a eu un projet, mais un projet qui a été très éphémère, avec Charles Mopsik, et qu'on a dû interrompre malgré lui et malgré moi, mais pour d'autres raisons. Il n'empêche que le judaïsme est... Il est présent dans l'ensemble des collections. Il irradie finalement. Il irradie le catalogue. On le retrouve dans la littérature, on le retrouve dans la poésie, dans la pensée, dans la mystique, dans les questions religieuses et aussi donc dans cette partie essentielle du judaïsme qui est la mystique et la kabbale. Le premier livre d'Aboulafia était une gageure, ça, sans aucun doute, puisqu'il n'existait absolument rien de cet auteur-là. Gershom Scholem en parlait, mais aucun des textes n'avait été publié, et on a pu trouver cet épître des sept voies qui avait été publié au 19e siècle en hébreu et qu'on a fait donc traduire par Jean-Christophe Attias à l'époque. Le livre a été préfacé par Shmuel Trigano et postfacé donc par Patricia Farazzi avec cette vie imaginaire. Mais ça a ouvert une voie, je crois, et des rencontres. La rencontre aussi qu'on a pu faire avec Charles Mopsik, avec qui nous avons travaillé assez régulièrement, quelquefois de manière un peu lointaine, et puis après, à la suite d'une série de rapprochements, un certain nombre d'ouvrages ont paru, malheureusement interrompus par cette mort précoce qui nous a énormément affectés, et qui a quand même donné naissance à un certain nombre de livres qu'on retrouve, je veux dire, qui ont, comme je le dis, irradié, contaminé le catalogue, mais c'est, comment dire, c'est une de ces belles bactéries qui donnent la vie, qui font vivre.
Oui, oui, on retrouve, j'ai l'impression, en vous écoutant, mais plus je regarde ce catalogue, que la phrase « je pars d'un point et je vais le plus loin possible » se retrouve aussi dans tous les titres et dans toutes les parties de ce catalogue. Parce que qu'est-ce que c'est que la Kabbale si ce n'est justement partir d'un point et se dire que ce point est fini, il est là, il est devant nous, mais il essaie de nous ouvrir les portes de l'infini. C'est un petit peu ce qui se passe aussi par la littérature et la poésie, Patricia Farazi.
Oui, alors très tôt à l'éclat sont arrivés les poèmes d'Aaron Chabtaï, de Yehuda Amichai et plus tard de Avot Yeshurun. Donc des poètes israéliens, une poésie inclassable qui témoigne ô combien de la vitalité de la poésie justement et de la créativité que chacun de ces poètes a amené dans l'hébreu et dans cette culture en perpétuelle formation. Il y a dans la poésie de Chabtaï ce quotidien transfiguré, dans les visions d'Amichai. Les visions d'Amichai, elles laissent son souffle, c'est extraordinaire, elles décuplent le réel sous nos yeux. Et puis Yeshurun, ce poète ouvrier dont les mots, même traduits, inventent une langue, la sienne. Il le dit, c'est très beau, il dit « Je suis allé en terre de Palestine, Tel Avivienne, et j'ai adopté un hébreu Tel Avivrien ». C'est extraordinaire. Et puis, il y a eu Avram Sutzkever, le yiddish, la poésie d'avant l'hébreu, d'avant Israël, les heures déchirées, brûlées, massacrées. Que la poésie rapièce, recompose, rend à l'humanité.
Vous venez de parler de poètes et vous avez lu le texte en français. Il s'agit de traduction. Et je pense que la question de la traduction, nous n'en avons pas encore parlé, mais elle joue un très grand rôle dans votre vie, personnellement et éditorialement, tout autant pour vous que pour Patricia Farazi. Quand je dis pour vous, c'est pour vous, Michel Valency. Nombre de livres de votre maison d'édition ont été traduits par vos propres soins, à tous les deux. Quel sens donnez-vous à cet exercice de la traduction ?
Oui, c'est vrai qu'on a, on s'est mobilisé pour les ouvrages. Patricia a traduit énormément d'ouvrages du catalogue, et en particulier ce philosophe italien Giorgio Colli, dont elle a traduit une grande partie de l'œuvre. Finalement, c'est une manière aussi de concevoir l'édition, qui était une manière décloisonnée de concevoir l'édition. Qu'est-ce que ça voulait dire être éditeur ? Est-ce que ça voulait dire acheter des droits, trouver des textes, faire de la mise en page, corriger des épreuves ? Ça voulait dire tout ça en même temps. Et c'était ça, pour moi et pour nous, faire de l'édition. Donc, d'une certaine manière, une fois qu'on tombait sur un texte dans une langue autre que le français, eh ben, si on ne trouvait pas de traducteur, eh ben, on traduisait. Enfin, je veux dire, ça fait partie de cette démarche globale, cette conception globale du métier. Je n'arrive pas à imaginer ce que pourrait être un travail éditorial sans le contact direct avec la fabrication du livre, je veux dire la mise en page, la correction, la relecture, le placement des images, la conception des marges, qui est un travail de traduction en forme d'un texte écrit, de la même manière que la traduction est une mise en français de textes d'horizons et de langues différentes. Alors on a fait ce qu'on a pu, on a traduit quand on connaissait les langues et on a accompagné les ouvrages qu'on pouvait nous-mêmes maîtriser. Mais le travail des traducteurs est essentiel. Enfin, Patricia a cité Yeshurun tout à l'heure, qui a été traduit de manière absolument magnifique par Bib Formentelli, qui malheureusement a disparu il y a très peu de temps. La traduction, on dit que c'est une trahison, mais c'est aussi une réinvention. C'est une réinvention de la langue. Et ça, on a essayé, au mieux qu'on a pu, de fournir des traductions qui permettaient de réinventer une langue. Ça a été chaque fois des grands, grands, grands bonheurs de travail.
J'entends dans ce que vous dites, et je pense à une triade biblique qui parle d'un fil à trois brins. Et chez vous, il y a éditer, traduire, écrire. Il y a bien sûr en plus la lecture, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout aussi, dans la traduction et dans l'ensemble, un plaisir d'écriture, un plaisir d'éditer, un plaisir d'éditeur et d'écriture que vous manifestez dans les préfaces, les avant-propos, la traduction et l'appareillage critique que vous apportez à l'édition de vos ouvrages, Patricia Farazi.
Je suis avant tout écrivain. Je le dis simplement. Mais c'est en tant qu'écrivain que j'ai envie de faire partager des textes que j'ai lus, les textes des autres écrivains. Alors, j'ai un peu honte de l'avouer, Mais je lis très rarement les préfaces des livres. Elles sont trop longues souvent, trop techniques. J'ai peur qu'on me dévoile trop de l'histoire. Par contre, j'ai souvent relu, pour le plaisir de la lecture, la préface d'André Malraux à Sanctuaire de William Faulkner. Ce sont à peine 4 pages, mais fulgurantes, magnifiques. Bon, alors, je n'ai pas la prétention, je n'ai jamais eu la prétention d'égaler le grand Malraux, mais cela m'a amené à écrire des préfaces courtes, sans recourir à la biographie exhaustive de l'auteur ou à l'étude de texte. L'idée, c'était de dialoguer avec l'auteur et de donner un contrepoint, tout en évoquant brièvement l'univers de cet auteur, pas sa biographie, son univers. Et de le tutoyer aussi, de tutoyer l'auteur. Un tutoiement qui devient parfois ce qu'on appelle le tu générique, qui inclut les lecteurs, qui s'adresse à la fois à l'auteur, au lecteur, et dans le cas de la Jeanne d'Arc de Michelet, au personnage lui-même. Avant que ne commence la lecture personnelle, j'essaye de faire que par cette préface et ce tu générique, enfin ce tu qui... nous nous rencontrions, auteur, éditrice, lecteur, préfacière, bien sûr. On œuvre ensemble. La préface devient une sorte de pré-réactivation du texte. Sans l'éditeur et sans le lecteur, c'est un peu une lapalissade, mais le texte est en sommeil. Chaque lecture va le ramener à la vie, va ouvrir une nouvelle interprétation. Et en plus, si le livre le permet... ce qui n'est pas toujours le cas, ça n'a pas du tout été le cas avec la préface « Aux heures rapiécées » d'Avram Sutskever, bien entendu. Mais si le livre le permet, j'essaye avec de glisser de l'humour, de l'ironie, pour créer une complicité avec le lecteur. Alors, il y a aussi le fait que les préfaces de Michel Valenzi sont très différentes des miennes. C'est une toute autre manière d'aborder la préface, et c'est encore plus évident dans celles que nous avons écrites ensemble. Je retrouve très facilement les morceaux qui ont été écrits par lui ou ceux écrits par moi. Et ça donne 2 versants très distincts des éditions de l'Éclat. Alors après, tout ce que l'on espère, c'est que ça s'équilibre, évidemment.
En 40 ans, beaucoup de choses se sont passées d'un point de vue éditorial. À l'occasion de l'anniversaire des 30 ans, vous aviez créé la collection de poches comme premier titre, un ouvrage de Giorgio Colli, qu'on a évoqué à l'instant, suivi du livre de Benjamin Gross, consacré au Shabbat. Quelle innovation vous nous réservez pour les 40 ans de la maison d'édition, Michel Valenzi?
Pour les 30 ans, le choix avait été de ne publier aucune nouveauté. C'était une sorte d'année sabbatique de Schmitta. L'idée de uniquement de se consacrer aux ouvrages du fond. C'est-à-dire, c'est comme ça que la collection de poches est née. Et puis, je crois que c'était au mois de septembre ou octobre, juste avant les 30 ans, on a reçu un manuscrit. Un manuscrit de Benjamin Gross intitulé « Shabbat ». Et finalement, ce livre-là confirmait notre envie et notre nécessité du Shabbat. Et c'est pour ça que finalement, le seul livre, la seule nouveauté de l'année 2015 a été ce livre magnifique de Benjamin Gross sur le Shabbat. On a innové, on a essayé d'innover quand même en particulier sur la question du numérique. Mais ça remonte à il y a 25 ans maintenant, puisque c'était en 2000. J'avais inventé un concept qui s'appelait « Liber » qui consistait à mettre intégralement et gratuitement les textes des ouvrages en ligne sur le site des éditions de l'Éclat. C'était un pari paradoxal, c'était pas un pari en faveur du numérique, c'était plutôt faire le pari que le livre était irremplaçable. Et ce pari, je crois, 25 ans après, est gagné. C'est-à-dire qu'en fait, la version numérique est une version qui accompagne la lecture du livre. Elle permet une lecture du livre, mais la véritable lecture ne se fait qu'à travers le livre et qu'à travers le papier. Et bon, j'en arrive à penser quelquefois, quand on voit l'évolution du livre numérique et de la digitalisation des savoirs, je me dis que peut-être quand plus personne ne lira, on pourra dire que le livre numérique l'aura emporté sur le papier. Mais je pense qu'on a quand même encore beaucoup, beaucoup d'années devant nous, et le livre papier a encore des ressources et encore des possibilités de survivre et de renaître.
merci à tous les deux pour cette très belle conversation que je propose de continuer la semaine prochaine avec vous, Patricia Farazzi, autour de votre roman « L'étoile et le flot », l'occasion aussi de poursuivre cette question du plaisir d'écrire dont nous avons parlé. Je rappelle le titre du livre que nous avons évoqué aujourd'hui, « 20 préfaces en forme de livre », un petit clin d'œil à Satie, je pense. C'est aux éditions de l'Éclat et c'est offert par votre libraire, tout comme le catalogue anniversaire et ses 505 titres, dans une version d'encre et de papier, doublée d'une version numérique qui peut se télécharger sur le site des éditions de l'Éclat, dont l'adresse est disponible sur le site de l'émission. Encore un très grand merci, Patricia Farazzi et Michel Valency, et bon anniversaire.
Merci Marc-Alain Wachnin.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui d'Ali Yaha, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez tous les détails biographiques et bibliographiques de nos invités et la biographie de la maison d'édition sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.